Nicolas Bergère, deuxième fichier. Les jeux de la fortune. Nicolas, en sortant de l'hôtel de Costéran en compagnie du jeune vicomte, vit avec satisfaction que l'automobile n'était pas devant la porte. Ils allaient tout près de là, à pied. Le soir était doux, le pavé bien sec. Nicolas pensait, avec exaltation, à tous les événements qui, depuis 2 jours, avait si rapidement fait avancer sa vie. Il avait à sa disposition une petite somme modeste, 1100 francs. Évidemment, ce n'était pas considérable, mais ainsi il pouvait attendre, sans trop se presser, les faveurs de la fortune, qui vraiment lui souriait avec insistance. Comme la vie était facile. Nicolas, après toutes les aubaines de ces 2 jours, n'était pas seulement content. Il était fier. Il lui semblait qu'il commandait aux événements. « Quand vous reverrez ma mère, dit le vicomte, ne lui parlez pas de mon ami berceur chez qui je vous conduis. Je ne dis pas que je joue au baccarat. Depuis 2 ou 3 mois, c'est une rage. Et c'est d'autant plus curieux que nous étions 2 ou 3 amis qui n'avions jamais touché une carte. Un soir, nous avons fait un petit bac, par désœuvrement, et il y en a eu 1 ou 2 de très touchés, à qui il a fallu donner une revanche. Ils se sont rattrapés, mais aux dépens d'un autre, qui a demandé à continuer un autre soir. Maintenant, tout le monde y a pris goût, et nous nous réunissons à peu près tous les jours. D'abord, on se mettait en habit, et on rentrait à 5 heures du matin. Alors, nous nous sommes dit, « On va commencer de meilleure heure. » On viendra tout bonnement en veston, après dîner, et l'on s'y mettra tout de suite pour s'en aller plus tôt. Le résultat, c'est qu'on joue 1 heure ou 2 de plus au début et qu'on joue aussi tard à la fin. Ce qu'il y a de terrible, ajouta le jeune homme, comme il s'arrêtait devant une maison de la rue de la Pompe. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est de se sentir pris, conquis, bouclé, sans résistance possible. Ce n'est pas seulement la question d'argent. Moi, je n'ai pas fortement écopé. Je m'en tire à bon compte. D'ailleurs, on joue entre amis et il n'y a pas de cagnotte. Bien entendu, tout le monde perd, cependant. Et vous allez le comprendre. Quand on gagne, on dépense facilement son argent. Et même aussi quand on perd. De sorte que l'argent du jeu roule constamment en dehors de la partie. Mais... ce n'est pas ça qui est le plus terrible. C'est que maintenant, à part la boxe qui m'intéresse un peu, je ne prends plus de plaisir qu'à la table de jeu. Quand je ne suis pas à la partie, je ne vis plus. La vie ordinaire ne nous fournit pas une suite d'émotions aussi rapides, des alternatives aussi continuelles d'espoir, de regrets, d'heureuses veines, de revers. J'ai l'impression, quand je quitte le jeu, de reculer péniblement dans un taco après être descendu d'une voiture de course. Nous montons lentement ces 4 étages, dit encore le vicomte, parce qu'il n'est pas tard et que j'ai peur de les trouver encore à dîner. Il faudra attendre là-haut qu'on ait enlevé le couvert et préparé la table de jeu, car mon ami berceur vit assez à l'étroit et nous jouons dans sa salle à manger. Si vous étiez joueur, vous connaîtriez cette impatience presque pénible des minutes qui précèdent la partie. Mais quand on s'installe, quand on donne le premier coup, quelle satisfaction de penser aux belles heures que l'on a devant soi pour recevoir les faveurs de la veine, ou lutter contre la déveine, et en triompher par son endurance. On a fini de dîner, Louis ? Demanda anxieusement le vicomte aux garçons qui leur prenaient leur chapeau. « Oui, monsieur, ces messieurs sont en train de préparer la table. » Le jeune homme entraîna Nicolas dans la salle à manger, où se trouvaient déjà 10 personnes. Bergère, présentée à ces messieurs et dames, fut accueillie par des sourires aimables et hâtifs. On prenait la banque, chacun à son tour, sans enchère, au prix uniforme de 50 louis. C'était Charles Berceur qui taillait. Nicolas se tenait debout derrière le vicomte. Par quelques renseignements rapides que lui jetait celui-ci, il apprit à connaître le jeu. Le vicomte gagna 2 ou 3 coups, ce qui fit plaisir à Nicolas. Il perdit ensuite son gain, puis quelques billets de banque, ce qui fit encore plaisir à Nicolas. Il se sentait très supérieur à tous ces gens. On croyait peut-être qu'il manquait d'argent pour jouer, mais il sentait ses billets de banque dans sa poche et jouissait égoïstement de sa tranquillité. C'était donc cela, ce fameux jeu de baccarat qui attirait tant de gens dans la vie et dans les romans. Nicolas n'arrivait pas à s'expliquer cette fascination. « Vous ne jouez pas, monsieur ?» La personne qui parlait à Nicolas était une jeune femme brune, toute pailletée de jais. Elle circulait autour de la table en questionnant, de temps en temps, un monsieur installé au jeu. Ce monsieur la renvoyait d'un hargneux coup de tête. Comme elle avait besoin de parler et de questionner, elle s'était adressée à Nicolas. « Non, madame, je ne joue jamais. » Non, il ne jouerait jamais. Et il était bien calme, bien sûr de lui. Les histoires de joueurs pris dans des engrenages, ce n'étaient que des histoires. Puis il se demanda si tous ces gens n'allaient pas se tromper sur son compte et croire qu'il s'abstenait de jouer parce qu'il n'avait pas d'argent. Il sortit flegmatiquement son portefeuille, en tira un billet de 100 francs. Même s'il perdait ce billet, il lui en resterait 10 autres. D'ailleurs, il ne risquerait ce billet qu'en 2 fois. Il regarda autour de lui pour demander de la monnaie, mais il n'osa pas. Et puis, son geste serait plus sensationnel s'il mettait ce billet tout entier sur le tapis. Il l'y déposa, en rougissant de toute sa face. Puis il attendit. Il n'attendit pas longtemps. Il n'y avait pas de croupier ni de palette. Le banquier se servait lui-même avec un râteau. Un joli râteau d'ébène enleva le billet de Nicolas. Nicolas, devant le coup du sort, resta d'une fermeté de bronze. Personne d'ailleurs ne songea à admirer son flegme. Il était troublé à l'idée que le vicomte pouvait avoir remarqué sa mésaventure, mais le vicomte était trop occupé de ses propres affaires. Nicolas trouvait cela stupide. Il lui restait 1 000 francs, mais maintenant 1 000 francs lui semblaient considérablement inférieurs à 1 100. Il fallait rattraper ses 100 francs. Un seul coup de carte, et ça y était. Il détacha de l'alias de 10 un autre billet qu'il se dépêcha de poser sur le tapis, car il avait peur que le coup partît sans lui et d'avoir manqué de 5 secondes une occasion de gagner. Le petit râteau diligent leva rapidement le billet qui alla rejoindre l'autre. Quand Nicolas eut perdu 600 francs, il se décida à faire de la monnaie, hasarda 1 louis qu'il gagna, puis laissa les 2 louis qui se trouvèrent doublés. La veine était revenue. Il mit sur le tapis tout ce qui lui restait et qui disparut rapidement, enlevé par le petit râteau vorace. Nicolas Bergère resta encore debout sans rien dire. Il ne savait pas si c'était vraiment arrivé, si ce n'était pas pour rire et si on n'allait pas lui rendre son argent. Personne ne s'occupait de lui. À un moment donné, le vicomte se leva, mit dans sa poche une liasse de billets qu'il avait devant lui et se tourna vers Nicolas, avec les yeux égarés, gonflés, de quelqu'un qui s'éveille. « Je vais prendre la banque, » dit-il à Nicolas. « Mais vous avez joué, et il me semble que vous avez perdu. Combien avez-vous perdu ?»« 1 100, » dit Nicolas avec un visage romain. « Oh, diable !» dit le vicomte. « C'est à moi, c'est à moi !» s'écria-t-il en se dirigeant vers le milieu de la table. Il ne songeait pas à s'apitoyer davantage sur les malheurs de Nicolas. Celui-ci se sentit tout à fait perdu. il n'avait pas la force de s'en aller. Mais il éprouva tout à coup tant de haine pour cette maison qu'il osa sortir de cette pièce et demander son pardessus. Il s'en alla, à pas rapide, jusqu'à la rue de Sèvres, dans sa petite chambre, où il aurait pu passer 200 journées, sans souci aucun, à lire de ses livres si bon marché qu'il avait vus en quantité l'après-midi aux étalages des librairies. La poisse. Nicolas Bergère, qui s'endormait d'ordinaire aussitôt sa bougie soufflée, resta cette nuit-là 2 ou 3 heures à chercher le sommeil. Il était malheureux, comme un grand capitaine après une défaite. 4 ou 5 fois, il arriva à se consoler et à prendre son parti. Mais son chagrin n'était jamais complètement vaincu et se relevait sournoisement la minute d'après. Nicolas avait beau se dire « Au moins, je n'ai plus rien et je ne jouerai plus. Je suis arrivé d'un seul coup au bas de la pente. » Il ne puisait dans ses réflexions qu'un réconfort passager. Par moments aussi, il pensait qu'il allait travailler courageusement. Mais à quoi? Où trouverait-il du travail? Il lui semblait maintenant qu'il avait lassé la fortune par sa brutale indiscrétion et que désormais elle le laisserait livrer à ses chétives ressources. Il finit par s'endormir. Ce fut pour recommencer en songe une partie de baccarat saugrenue où il avait constamment en main des jeux admirables, mais avec un nombre de cartes excessif. Les coups de cartes ne se terminaient pas. Nicolas était isolé auprès d'un petit guéridon doré d'où les cartes glissaient, et des invasions de personnages encombrants séparaient les joueurs et rendaient la partie étrangement confuse. Il s'était à peine échappé de cette pagaille et suivait depuis quelques instants, dans la campagne déserte, le cours d'un paisible ruisseau quand il entendit de sourdes détonations. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans une chambre qu'il eut peine à reconnaître. Il fallut remettre à leur place le lit, la commode, la petite table et faire sortir de sa gorge un « Entrez !» enroué pour arrêter les détonations qui retentissaient à sa porte. Le jeune homme à la bouche ouverte, qui faisait le service des chambres, entra silencieusement et déposa une lettre sur la table de nuit. Nicolas resta quelques secondes enfoui dans ses couvertures pour opérer un petit travail de raccordement entre le jour nouveau et le jour disparu. Il vit avec tristesse qu'hier, en s'en allant, avait passé la consigne à aujourd'hui, et que rien ainsi n'était aboli des ennuis de la veille. Il n'avait pas à sa disposition la philosophie de certains joueurs endurcis, qui, à la suite d'une forte perte, se consolent avec le raisonnement suivant. De 4 hypothèses, l'une. Ou je ne jouerai plus, alors vraiment ce n'est pas payer trop cher ma guérison. Où je jouerai encore et je gagnerai. Alors, je n'ai pas besoin de m'affliger, puisque je dois rattraper tout ou partie de ma perte. Où je jouerai encore et je ne ferai aucune différence. Alors, j'aurai la satisfaction de m'amuser au jeu sans que ma situation empire. Où je jouerai encore et je perdrai. Alors, ma situation actuelle est encore moins triste que ma situation future. J'ai donc le temps de me faire de la bile plus tard. Le malheureux Nicolas, lui, n'avait en tête qu'un grand effroi. L'argent qu'il avait perdu, c'était presque entièrement de l'argent de jeu, et sa situation, somme toute, n'était guère plus mauvaise qu'à son arrivée à Paris. Mais il n'avait plus sa confiance ou son insouciance du premier jour. Il avait reçu une beigne du destin, et il revenait tout démoralisé dans son coin. Il se décida à lire la lettre que le petit jeune homme avait apportée. C'était une lettre de sa sœur, une lettre insignifiante, qui lui donnait quelques sèches nouvelles du pays et ne changea pas le cours de ses idées. Et voici qu'en se retournant dans son lit, il aperçut tout à coup, à côté de l'armoire, son vélo, un vélo presque neuf, à roue libre, à changement de vitesse. La selle s'ornait d'une belle sacoche de cuir jaune. Brusquement, l'idée de le vendre se fit jour dans l'esprit de Nicolas. Il se croyait dénué de ressources, mais il n'était pas encore à bout. Il pensait bien tirer de cette bicyclette 150 ou 200 francs. Grâce à cet argent, il pourrait retourner au baccarat et, calmé, assagi par les revers, se mesurer, armé de plus de sang-froid, avec la fortune capricieuse. Son désespoir avait subitement fait place à une sorte de folie froide. Il s'imaginait maintenant que la veille au soir, il avait perdu son argent par sa faute. À un moment, en sentant la veine revenir, il avait voulu se rattraper trop vite et avait jeté tout son reste sur le tapis. Il était persuadé qu'avec de la patience et de la présence d'esprit, il referait, au moins en partie, sa perte. Il s'habilla au plus vite, afin d'avoir le plus de temps devant lui pour vendre son vélo dans les meilleures conditions possibles. Il savait qu'il y avait beaucoup de marchands du côté de la Porte Maillot. Il y arriva, après 3 quarts d'heure, en se dirigeant dans sa marche au moyen de rails de tramway, avec des consultations de sergent de ville aux bifurcations. Les premières démarches eurent un résultat lamentable. On lui offrit 40 francs, puis 50, puis 60. Il était désespéré, si bien qu'ayant considérablement baissé ses prétentions, il considéra comme une bonne fortune une offre de 80 francs. 80 francs, ce n'était pas beaucoup pour refaire son pécule. Mais le fol espoir qui dirigeait depuis le matin la conduite de Nicolas ne s'arrêtait pas à une différence de quelques louis. Nicolas empocha ses 4 pièces d'or, retourna à sa pension où son repas était payé. Il s'en allait à travers les avenues sans contempler les beautés de la grande ville. Il était trop occupé par sa lutte avec le sort. Cependant, depuis qu'il avait un peu d'argent sur lui, ses dispositions avaient changé. En somme, sa pension était payée pour près d'un mois encore. Et, même s'il perdait ses dernières ressources, il avait plus de 3 semaines pour se retourner. Mais il ne perdrait pas. Il s'agissait maintenant de retourner au Fighting Club et de retrouver le vicomte de Costéran, afin de savoir où l'on jouerait le soir. Le professeur de boxe française était en train de nettoyer avec amour une paire de souliers blancs en peau. Il fit à Nicolas un petit cours sur le nettoyage de souliers et sur le plus ou moins de susceptibilité des peaux différentes. Ce jour-là, la salle de boxe était très calme. L'ardeur combative des membres du club semblait un peu tombée. Il ne vint personne jusqu'à 6h30. Et, si fertile que soit le parallèle classique entre la boxe anglaise et la boxe française, il suffit mal à alimenter une conversation de 3 heures, surtout quand un des interlocuteurs n'apporte, comme tribut personnel à ce sujet d'entretien, que des gestes d'acquiescement distraits et lassés. Nicolas, en attendant le vicomte qui tardait à venir, assista à un assaut de boxe française paisible entre un gros vieillard et un petit jeune homme transparent, qui soulevaient péniblement leurs bottines. Il s'intéressait, faute de mieux, à ce spectacle, quand le vicomte lui frappa sur l'épaule. Le jeune homme paraissait très fatigué. « Nous avons joué jusqu'à 9h du matin. J'ai perdu, j'ai gagné, j'ai fini par être à jeu. Je suis rentré furieux. Je trouvais ça stupide. » Nicolas n'osait pas demander où l'on rejouerait le soir. Il était gêné parce que le vicomte lui parla plus froidement que la veille. L'emmènerait-il encore dîner chez lui? C'était peu probable. Ils sortirent de la salle. Le vicomte, au moment de monter en auto, tendit la main à Nicolas. Celui-ci se risqua à dire Et ce soir, probablement nouvelle partie. Oh non, c'est fini pour quelque temps. On ne joue plus. Au revoir, mon vieux. Et il laissa Nicolas, sous une petite pluie méchante, tout seul et plus ruiné que la veille. Enquête. Les journées qui suivirent furent longues et monotones. Nicolas ne voulait pas retourner chez le vicomte, ni même le rencontrer à la salle de boxe. Il avait acheté 2 ou 3 livres à 20 sous, mais le tourbillon d'émotions, d'espoir et de désespoir divers qu'il avait emporté pendant 48 heures le laissait encore tout palpitant et incapable de s'abandonner aux joies calmes de la lecture. Il avait d'abord formé le projet de rester à ne rien faire pendant 15 jours, puisque sa pension était payée pour 3 semaines encore. La dernière semaine, il serait encore temps de se remuer un peu. Mais il fut dégoûté de la grasse matinée après une seule expérience. Il décida que le lendemain, il se lèverait de bonne heure et commencerait à battre le pavé de Paris, afin de se chercher une position, sans attendre le moment où il serait complètement aux abois. Il sortit donc un matin, vers 9 heures, et s'en alla à pied sur la rive droite. Il traversa la place du Carrousel, prit l'avenue de l'Opéra, et se trouva sur le boulevard au milieu d'une animation décourageante. Il était croisé et dépassé par une quantité de gens qui, semblait-il, avaient tous des positions. Le nombre des autos et des voitures de maître était stupéfiant, en dépit de leur matinale. Il n'y avait aucune chance pour que ce monsieur décoré, qui passait dans sa limousine, fît signe à son chauffeur d'arrêter, descendit majestueusement de sa voiture et vint offrir une partie de sa fortune à Nicolas. Dire qu'il avait dîné 3 jours auparavant chez les Costéran et qu'il n'y avait eu aucune suite à cette miraculeuse entrée dans le grand monde. Non, on ne gagne pas 2 fois le gros lot, et sa vie entière se passerait désormais à attendre un nouveau sourire de la chance. Il fut presque soulagé à cette idée qu'il avait raté sa vie, et que, faute d'avoir profité d'un miracle, il ne bougerait plus jamais d'une tranquille ornière. Il eut un moment l'idée d'aller voir M. Aubréant. Mais il aurait fallu lui raconter comment il avait perdu bêtement ses 1100 francs. Et Nicolas Bergère était ainsi fait qu'il ne tenait pas à voir ses amis quand il n'avait rien de très glorieux à leur apprendre sur son compte. Il ne pensait plus à jouer au baccarat. Une seule journée avait fait tomber en lui cette espèce de confiance dangereuse qui suit d'ordinaire, par réaction, les grands désastres du jeu. Il avait sur lui 80 et quelques francs. Les quelques louis provenaient de la vente de son vélo, qu'il avait peut-être cédé à un prix trop bas. Si j'essayais de le racheter. Une fois remis en possession de sa bicyclette, il trouverait peut-être une place de chasseur dans un restaurant. Il connaîtrait assez vite les rues de Paris. Les autos l'effrayaient un peu, mais il était très bon cycliste. Et puis, essayer de racheter son vélo, c'était un projet. Et pour le moment, il lui fallait un projet, quel qu'il fût. Il put enfin presser le pas et marcher à l'allure de ses passants qui, presque tous, semblaient avoir un but précis. Il se dit que le marchand n'accepterait peut-être pas de lui rendre sa bicyclette sans bénéfice et simplement contre la remise des 80 francs. Alors, que faire? Si le marchand allait lui demander 10 ou 15 francs de plus? Et il les demanderait certainement. Et si la bicyclette était déjà vendue? Il arriva devant le petit magasin. Il vit quelques vélos d'occasion rangés bien sagement sur le trottoir. Son vélo y était-il? Non, il n'y était pas. Et tout à coup il le reconnut. On avait enlevé la sacoche, et l'émail était un peu terni par la poussière. Le patron, en culotte de cycliste, se trouvait dans son petit magasin, en train de chercher un outil dans une boîte. Déjà l'avant-veille, au moment de la première visite de Nicolas, il se livrait à cette occupation. Était-ce toujours le même outil qu'il cherchait depuis 48 heures, avec l'éternelle obstination d'un gnome marqué par le destin? C'était un petit noireau, à la barbe inégale, beaucoup plus touffu d'un côté. Il n'était pas précisément bossu, mais très accidenté. C'est moi, lui dit Nicolas, qui vous ai vendu une bicyclette avant-hier.
C'est possible, dit le gnome.
C'est ce vélo, là, le deuxième de la rangée. Le patron ne sortit pas de son magasin pour se rendre compte, comme l'y invitait le geste de Nicolas. Mais tout à coup, il reconnut le jeune homme. « Ah oui, dit-il, je vous remets. Peut-être, dit Nicolas, vous rachèterai-je cette bicyclette. »
« À votre disposition,
dit ce gnome accommodant.
« Qu'est-ce que vous me demanderiez pour ça ? Dit Nicolas plein de crainte.
« Vous n'aurez qu'à me rendre ce que je vous ai donné. Pour 2 jours, je ne veux rien gagner sur vous. »
C'était inespéré. Mais à partir de cet instant, tout désir de racheter son vélo fut aboli chez Nicolas. Et il trouvait un avantage remarquable à la bonne et solide possession de 4 louis d'or.
« Eh bien, dit-il, je repasserai tout à l'heure, cet après-midi. »«
Comme vous voudrez, dit le marchand.
« Mais si vous trouvez un amateur, je ne veux pas vous empêcher. »«
Je ne manquerai pas la vente, bien entendu, mais je ne trouverai pas d'amateur. Soyez tranquille. »
Nicolas était parfaitement tranquille. Il ne s'agissait plus qu'à prendre congé du marchand et à éviter de passer désormais devant sa boutique. Pourtant, au moment de s'en aller, une autre idée lui vint.
« J'ai un de mes amis qui cherche une place dans les cycles ou dans les autos, » dit-il au gnome,
qui, reployé dans la boîte à outils, s'était remis à la poursuite de l'outil introuvable. Il semblait n'avoir pas entendu, et Nicolas allait se retirer quand le gnome lui dit, au milieu d'un fracas de clés anglaises et d'écrous remués,
« J'aurai peut-être votre affaire. »
Nicolas fut décontenancé. Les choses, encore une fois, allaient trop vite. Il n'était jamais assez préparé à ces brusques faveurs du destin.
« C'est chez un cousin à moi, » dit le gnome, « qui tient un petit commerce de métaux près de la place de la Nation. Mais peut-être bien que ça ne plaira pas à votre ami. »
« Mon ami, c'est moi, » dit Nicolas en rougissant. « Et quand on veut gagner sa vie, pour le travail, je suis très courageux. »
« Oh, dit le patron, ce n'est pas que le travail soit dur, ce n'est pas non plus qu'il soit mal payé. »«
Alors, dit Nicolas,
alors vous verrez vous-même, dit ce gnome mystérieux, je m'en vais toujours vous donner la carte. »«
Pourquoi donc ça ne me plairait-il pas ? Se demandait Nicolas. Il ne devait comprendre que plus tard ce que le gnome avait voulu dire. Et vers quelle aventure le destin capricieux venait de le diriger. Mystère. À l'endroit indiqué par le vendeur de bicyclettes, Nicolas Bergère sortit des entrailles du métro et se trouva sur une vaste avenue. Il s'orienta selon les données précises qui lui avaient été fournies, gagna une rue latérale, puis une autre rue assez étroite et barrée par des grilles à ses extrémités. Là, il examina, pour plus de sûreté, la carte remise par le gnome et où celui-ci avait imprimé, sous forme de sceau, la noire empreinte de son pouce. La boutique de M. Van Stoel était au milieu du passage. Elle était assez vaste et très en désordre. On y voyait des amas d'outils, des morceaux de fonte, des mouvements de pendules, des balanciers de pendules et même des pendules entières qui, debout ou couchés ou la tête en bas, continuaient leur obligeant petit métier de pendule.
mais l'heure qu'elles étaient en mesure d'indiquer ne pouvait avoir avec l'heure officielle que le plus fortuit des rapports. M. Van Stoel lui-même sortit d'un petit bureau vitré et apparut à Nicolas. Bien qu'il eût un nom étranger, il présentait toutes les apparences d'un vieux Parisien de Charonne. Tout à fait chez lui et à la hauteur, qui n'essaie pas d'en imposer au monde, mais à qui on ne la fait pas. C'était un petit homme aux cheveux gris ras, à la moustache rare, aux yeux blagueurs. Il était vêtu en patron. Sa jaquette était très fatiguée, mais c'était une jaquette. Son linge était sale, mais il en montrait. Il regarda Nicolas et parut assez satisfait de sa tenue. Il l'engagea séance tenante en lui expliquant ce qu'il aurait à faire. Ce n'était pas compliqué. M. Van Stoel restait chargé des achats et des ventes, et Nicolas surveillerait simplement la livraison des marchandises aux acheteurs. Cette livraison s'effectuait au moyen d'une voiture à bras, mue par la force humaine d'un grand éphèbe, blond et borgne, qui rêvait autant avec son œil unique que bien d'autres personnes avec deux. Nicolas, pour débuter, gagnerait 30 francs par semaine. Il songea qu'il faudrait changer de pension à la fin de son mois. À la rigueur, des combinaisons du métro l'amèneraient assez rapidement à la rue de Sèvres, mais somme toute, il valait mieux se loger plus près pour n'avoir pas à compter avec le métro. En tout cas, il ne pouvait pas rentrer déjeuner chez lui, et s'il restait à sa pension, il faudrait débattre avec la patronne des conditions nouvelles. Or, c'était une personne avec qui Nicolas n'aimait pas discuter. Ses aptitudes à défendre ses intérêts variaient, en effet, selon la figure de l'adversaire. Il y avait des gens à qui il eût préféré tout céder d'avance, et d'autres avec qui il se montrait d'une infatigable âpreté. C'était pour ces raisons qu'il était très imprudent de porter, sur le caractère de Nicolas, un jugement définitif. M. Van Stoel lui avait dit « Revenez après votre déjeuner, vers 2 heures. » Nicolas prit donc son service à 2 heures. Au bout de quelques instants, il eut cette impression que personne ne viendrait jamais dans cette boutique très sombre, qui semblait abandonnée de Dieu et des chalands. M. Van Stoel s'occupait à des travaux très futiles en apparence. Il prenait sur un tas en désordre un quelconque morceau de ferraille qu'il allait porter sur un autre tas. Et l'on ne savait pas pourquoi cet objet était plus à sa place sur ce tas plutôt que sur l'autre. Quand M. Van Stoel jugea qu'il faisait nuit aussi au dehors, il tourna un bouton électrique et une petite lampe usée s'alluma au bout d'un fil contre le mur. Ce fut vers ce moment qu'une personne pénétra dans le magasin. C'était un vieillard sans joie, vêtu d'un pardessus marron. M. Van Stoel continua à trier de vieux outils. Au bout d'un instant, il s'approcha du vieillard. Tous deux échangèrent d'un air las quelques faibles paroles que Nicolas n'entendit point. M. Van Stoel retourna à sa ferraille, et le vieillard disparut de la boutique comme un fantôme qui s'évanouit. Ce ne fut qu'en passant un quart d'heure plus tard, aux environs de l'oisif Nicolas, que M. Van Stoel lui transmit la commande.
« Ce travail ne vous plaira peut-être pas, » avait dit le marchand de vélo.
Avait-il fait allusion à la monotonie de la vie d'employé que Nicolas mènerait dans cette boutique?
C'était peu probable. Il devait y avoir autre chose.
Ce fut l'attente de cette autre chose qui soutint Nicolas. La journée du lendemain fut aussi terne. Le matin, un octogénaire en petite veste de lustrine avait tendu à M. Van Stoel un petit papier crasseux, et l'on avait chargé sur une petite voiture à bras un certain nombre de vieilles pendules. Puis, après cet événement, l'épais nuage de tristesse s'était reformé dans la boutique. Enfin, vers 3 heures, se produisit le premier fait de toute une série qui devait être, pour Nicolas Bergère, un sujet de questions intimes et d'inquiètes suppositions. Un jeune homme, assez bien vêtu, coiffé d'un chapeau melon et qui portait au bas de son pantalon les pinces de bicyclette, entra délicatement dans la boutique, toussa deux ou trois fois pour attirer l'attention de M. Van Stoel, puis sortit assez précipitamment pour rentrer l'instant d'après avec un vélo. M. Van Stoel examina la bicyclette, puis prononça quelques paroles brèves que Nicolas n'entendit pas. Le jeune homme fit mine de reprendre la bécane. M. Van Stoel mit deux doigts, d'abord dans son gousset, puis dans la main du jeune homme. Cette main repoussa d'abord les deux doigts de M. Van Stoel, puis finit par céder. Le jeune homme haussa les épaules, puis sortit en grondant. « Le garçon de peine n'est pas là ?» demanda M. Van Stoel. « Il est parti, » dit Nicolas, « pour livrer des saumons de cuivre rouge. »« Alors, » dit M. Van Stoel, « vous allez conduire ce vélo à l'endroit que je vais vous dire. Vous demanderez le patron et vous lui direz simplement qu'il repeigne le cadre en blanc après avoir enlevé le carter et le frein. » Nicolas s'en alla docilement. C'était à quelques minutes de là. Suivant à la lettre les indications fournies par M. Van Stoel, il pénétra dans une cour, alla tout au fond, vit un atelier annoncé et aperçut dans cet atelier un certain nombre de vélos fraîchement peints. Il ne songea pas tout de suite à la femme de barbe bleue ouvrant la chambre fatale. Ce ne fut que plus tard que ce rapprochement se présenta à son esprit. Une nouvelle connaissance. Des individus mystérieux qui amènent des vélos. Ces vélos que l'on repeint et que l'on prive arbitrairement d'un frein et d'un carter. « Ce métier ne vous plaira peut-être pas, » avait dit le marchand qui lui avait donné l'adresse de cette boutique. Mais paresseusement, il s'abstenait d'approfondir ses paroles. Il attendait que les événements voulussent bien leur donner un sens plus précis. Vers quel chemin s'orientait sa vie? Il ne cherchait plus à le deviner. Depuis quelque temps, le destin avait pris plaisir à l'engager sur de fausses pistes. Il avait gagné de l'argent aux courses, il avait espéré ensuite devenir un athlète glorieux, puis le parasite d'une famille riche, puis un joueur de baccarat triomphant. Son ambition, attisée par ses lectures, ne l'eût pas laissé aussi paisible dans cette petite place à 30 francs par semaine, si cette existence morne n'avait été pimentée d'un peu de mystère et d'inquiétude. Il n'était encore sûr de rien. Ce qui le troublait, c'est que, pendant quelques jours, M. Van Stoel ne se livrait qu'à des transactions parfaitement normales. Il emmena deux ou trois fois Nicolas dans des ventes aux enchères où il se rendait acquéreur de différents objets que l'on ramenait ensuite à la boutique. « Alors quoi ? » pensait Nicolas. « C'est un marchand comme un autre ?» Les livres lui avaient montré des receleurs qui se consacraient exclusivement à l'achat d'objets volés. Ce vieux blagueur de M. Van Stoel était plutôt bon enfant et n'avait certainement rien de sinistre. Pourquoi n'était-il pas hargneux et soupçonneux, et ne repoussait-il pas de son magasin toute marchandise de provenance honnête? Nicolas lui en voulait presque de dérouter ainsi les classificateurs. Puis il finit par le regarder comme un personnage très fort et très compliqué, alors que M. Van Stoel était peut-être un homme assez simple, qui n'avait pas de scrupules, mais ne faisait pas profession de n'en pas avoir. Un matin, M. Van Stoel dit à Nicolas « Il y aura une vente rue Amelot chez un quincaillier qui n'a pas fait ses affaires. Je vais faire un tour par là. Il y a 5 ou 6 articles qui m'ont donné dans l'œil. Je ne sais pas à quelle heure c'est qu'on les vendra, et la vente sera longue. Ces sacrés commissaires-priseurs, au lieu de vendre les articles par série, ils panachent, ils sautent d'un genre à un autre. Sans ça, C'est lui qui est pour les tenailles ou les marteaux, il n'aurait plus qu'à se barrer, aussitôt vendu les marteaux et les tenailles. Avec leur système, personne ne s'en va. Force est de rester jusqu'à la fin. On s'entasse, on s'étouffe, on n'est plus de sang-froid. Et ils nous arrangent. Je ne parle pas pour moi. Le jour où c'est qu'ils voudront m'arranger, faudra plutôt qu'ils se lèvent de bonne heure. Monsieur Van Stoel partit donc pour la vente, vêtu d'un pardessus gris, très passé, coiffé d'un chapeau Kronstadt, quelque chose comme un quart de tube en feutre mat. Il portait, en outre, un parapluie qui ne le quittait jamais, même par le beau temps, mais qu'il ouvrait bien rarement, même sous la grande pluie. Nicolas, roi de ce petit domaine, s'installa sur le seuil de la boutique. Il souhaitait la venue d'un acheteur, à qui il vendrait fort cher un très grand nombre d'objets dépréciés, afin de bien épater M. Van Stoel. Mais on avait l'impression d'être dans une île du Pacifique, à 5000 marins de toute terre vraiment habitée. Quelques indigènes en casquette de cycliste, en petits vestons de lustrine, passaient de temps en temps sur le trottoir, parce qu'il faut tout de même qu'il y ait des passants. Soudain, une petite voiture à bras, que Nicolas n'avait pas vu venir, s'arrêta devant le magasin, et un jeune homme, un peu pâle, sortit d'entre les brancards. « Peut-on voir le patron ? » demanda-t-il à Nicolas. « Il est à une vente. » Après s'être soulagé par une brève interjection de mécontentement et avoir demandé d'un ton rogue ce que le patron faisait à cette vente au lieu d'attendre dans son magasin les bonnes occasions qu'on lui apportait, le jeune homme enfin se calma et pria Nicolas de lui donner un coup de main pour rentrer la voiture à bras dans la boutique. « Je viendrai le voir quand il sera de retour. » Il souleva un morceau de bâche qui couvrait ses marchandises. Il y a là du fil de cuivre rouge première, et encore du tube et des lames de nickel, tout ce qu'il y a de beau. Il y a eu du pé pour se procurer ça. Je t'assure que ce n'était pas commode. Ma chemise en est encore trempée. Dis donc, le commis, tu t'en vas déjeuner ?
Oui, dit Nicolas. Voilà justement le garçon qui revient.
Dis-y qu'il fasse attention à ma petite carriole. Ça serait pas à faire qu'on me chauffe ma marchandise, moi qui ai eu tant de mal à la chauffer. »
Nicolas fit des recommandations au garçon de peine et suivit le petit jeune homme qui voulait absolument lui offrir l'apéro. Ils s'amenèrent devant un zinc, au coin de la rue, chez un beau marchand de vin tout neuf. Nicolas demanda un vermouth gommé. Mais le petit jeune homme avait mangé un morceau sur le coup de 10h30. Pour lui, il n'était pas question d'apéritif. « Mets-moi plutôt un café, » dit-il au garçon.
« Quelle fourbi !» dit-il entre ses dents à Nicolas. « La cour du marchand de métaux est fermée par une clôture en planche. Ça touche un jardinet, ou, si tu veux, un terrain vide. » J'étais là, à poireauter depuis 7 heures du matin, étendu de mon long, le nez par terre, au milieu des touffes d'herbe. Heureusement que j'avais apporté un pain de 2 sous et un bout de gruyère, et j'ai pu me caler un peu sur le coup de 10h30. Un appelé, Émile, qui devait me passer les objets par un trou de la clôture, m'a cogné contre la planche. C'était pas sa faute, il était en retard. Il y avait du pé. Il n'avait pas pu venir avant. Enfin, quand il est venu, j'étais bon. Ça s'est fait en douceur. J'avais ma voiture à bras dans un coin du terrain. J'ai pu charger et m'en aller sans qu'on me dérange.
C'est drôle, pensait Nicolas. Je suis là, à l'écouter tranquillement.
Au régiment, un soir, un homme lui avait fait confidence d'une histoire de porte-monnaie chipée dans la ville. Nicolas s'était mis dans une colère terrible et avait failli abîmer son camarade. Mais devant ce petit jeune homme, il lui semblait que ce n'était pas à lui à faire de la morale, que ça ne le regardait pas, et qu'il n'avait d'ailleurs pas le droit, simple employé qu'il était, de se mêler des affaires de son patron. Seulement, il préféra payer les consommations.
Intervention. Plusieurs jours monotones suivirent la rencontre d'une Nicolas Bergère et du jeune voleur de métaux. Nicolas pensa plusieurs fois, distraitement, à ce petit malfaiteur qui se donnait tant de mal dans sa coupable et, en somme, peu lucrative industrie. Nicolas avait quitté sa pension de famille de la rue de Sèvres. Il était venu s'installer dans un hôtel du faubourg Saint-Antoine. C'était dans une petite maison étroite, coincée entre deux autres maisons à peine plus larges. D'ailleurs, toutes les maisons de ce coin du faubourg ressemblaient à une rangée de vieillards titubants et qui se soutiennent l'un l'autre. Les murs zigzaguaient, le plancher des chambres s'accidentait de côtes, de ravines et de tertres de bois vermoulus. Les portes étaient trop courtes du bas. Pour arriver à fermer les fenêtres, il fallait les surprendre, se précipiter sur elles au moment où elles ne se doutaient de rien. Les commodes et les armoires appuyaient toutes au moins un pied sur une petite pile de cales. On n'avait pas cette ressource avec les meubles mobiles. Aussi, chaque chaise gardait une patte en l'air. On en faisait de petits rocking à course très limitée où l'on se balançait en diagonale. La patronne de l'hôtel était une personne d'une cinquantaine d'années, la figure ronde et rouge, le ventre bien gonflé. Elle demanda à Nicolas s'il n'était pas lorrain, car elle était de la Lorraine, et son hôtel était le rendez-vous des gens de là-bas. Nicolas répondit qu'il était breton, mais n'en était plus très sûr, et s'imagina bientôt qu'il était lorrain, tant il se sentait à son aise avec cette accueillante patronne. On prenait le repas dans une petite salle du rez-de-chaussée, qui donnait sur une cour étroite, où descendait tout de même un gentil et clair petit jour. La table comprenait 7 à 8 personnes, dont le mari de la patronne, un vieux paysan de Paris, qui ne sortait jamais et conservait dans sa mansarde une rusticité irréductible. Il avait appris à écrire à l'âge de 50 ans et faisait les écritures de la maison, à sa façon, avec des bouts de mots inintelligibles, où il se retrouvait toujours. La patronne ne mangeait jamais à table, ni ailleurs. Elle était trop occupée à faire le service. On se demandait comment elle pouvait rester si grasse et si forte, elle qui ne prenait jamais aucun repas. On ne comptait pas les morceaux qu'elle prélevait continuellement sur les plats, en servant ou en desservant. Émilie, dite Émélie, était l'unique enfant du couple. Elle ressemblait assez à sa compatriote Jeanne d'Arc. Mais c'était une Jeanne d'Arc très maussade, qui ne songeait nullement à pourchasser les Anglais, qui passait son temps au bureau de poste où elle était employée, et pour qui le client, acheteur de timbres et de cartes-lettres, constituait le seul ennemi héréditaire. Par un phénomène explicable, Nicolas, au milieu de ces braves gens, ressaisit son sens moral. Il fut un peu gêné d'être le commis d'un receleur. Il se répéta qu'il n'était qu'un employé et n'avait aucune responsabilité morale dans les affaires louches de la maison. D'ailleurs, pendant une quinzaine, le caractère des opérations de M. Van Stoel reprit une apparence honorable. Peut-être, avec les froids qui venaient, le nombre des cyclistes diminuait-il dans les rues, et par conséquent, le nombre des bicyclettes laissées au bord du trottoir. Peut-être aussi les fournisseurs les plus diligents de M. Van Stoel avaient-ils éprouvé quelque accident, et leur activité se trouvait-elle entravée pour 6 mois, 1 an ou 5 ans? Les heures étaient longues dans la boutique. M. Van Stoel continuait à se répandre dans les ventes aux enchères. Nicolas, assis sur un escabeau, lisait à la lueur de la lampe électrique usée qui pendait le long du mur. Mais il était mal installé et lisait sans plaisir. Il supportait beaucoup plus difficilement l'ennui que la mauvaise fortune. Très optimiste, il se croyait toujours en bon terme avec la Providence. Chaque épreuve qu'elle lui enverrait présageait une large compensation. Il supportait donc sa malveillance, mais pas son indifférence. Il était, en somme, moins malheureux quand il lui arrivait quelque malheur que lorsqu'il ne lui arrivait rien. Mais le destin n'aime pas qu'on réclame. Nicolas se plaignait d'être oublié. Il avait tort. Un jour, vers midi et demi, il était en train de déjeuner à son hôtel Lorrain, en compagnie du patron, de Jeanne d'Arc et de trois pensionnaires. Le patron, selon son habitude, ne disait rien, tout occupé à un travail de mastication, qu'exécutaient avec peine deux mâchoires laborieuses, mal assemblées à cause des dents qui manquaient. La jeune employée des postes restait revêche, même en dehors des heures de bureau. Un conducteur de travaux, sa casquette sur la tête, un gros calepin à côté de son assiette, mangeait en toute hâte, non pas qu'il fût décidé à reprendre tout de suite son service, mais afin de pouvoir flâner plus longtemps en dégustant son café. Un homme, au torse long, au visage glabre et très triste, était arrivé de la Haute-Marne pour vendre des couteaux. L'autre pensionnaire était un comptable, à barbe blanche, qui ressemblait à un grand poète à cause de sa tête inclinée d'un côté. Il mangeait, les yeux fermés et le front plein de méditation. « Monsieur Nicolas Bergère, c'est-il ici ?» On avait ouvert la porte vitrée. Un homme en bourgeois, à forte moustache, attendait, l'air jovial. « Pourrais-je vous dire un petit mot ? » dit-il à Nicolas quand celui-ci se fut levé. Ils allèrent tous les deux dans l'allée. « Il faudrait venir avec moi jusqu'au bureau du commissaire. »«
Tout de suite ?»«
Oui, parce que le commissaire est là, et il vaut mieux ne pas le faire attendre. » Encore une nouvelle connaissance. En accompagnant jusqu'au bureau du commissaire l'homme jovial à forte moustache qui était venu le chercher à l'hôtel, Nicolas Bergère était certes ennuyé. Mais il l'était surtout par tradition. Il est entendu qu'il est ennuyeux d'être mêlé à une affaire de recel. Au fond de lui-même, une curiosité ardente l'égayait. Mais combien d'hommes, dès qu'ils reçoivent un coup du sort, gardent l'indépendance d'esprit nécessaire pour établir une balance et pour oser se déclarer à eux-mêmes que tel événement, réputé triste, les réjouit en fin de compte, que telle catastrophe, classée déplorable, anime leur vie d'une variété, en somme, heureuse. Nicolas Bergère se persuada docilement qu'il était regrettable d'être appelé chez le commissaire de police, et cette constatation routinière l'empêcha de s'intéresser, autant qu'il aurait pu, à une pareille aventure. Quatre ou cinq personnes, modestement vêtues, attendaient sur des bancs de bois. Mais l'affaire qui amenait Nicolas était plus importante. Aussi un passe-droit le fit-il pénétrer, avant son tour, dans le cabinet du commissaire. Un gros homme rasé écrivait, assis devant un vaste bureau. Nicolas, impressionné, ne se dit point que cette grosse tête grisonnante était une tête humaine comme les autres. Il se trouvait devant un être mythologique, plein d'inconnus, de mystères, de toute puissance. Ce demi-dieu allait l'écraser au nom de la morale séculaire. Le demi-dieu, penché sur son papier, releva l'instant d'après un visage blagueur et débonnaire et posa quelques questions à Nicolas, certes avec pas mal de mépris. Mais la distance entre eux était simplement celle qui sépare un fonctionnaire important d'un jeune commis qui n'est rien du tout. Si le commissaire représentait la morale, il n'en défendait pas à tout bout de champ les principes. Nicolas s'attendait à trouver chez ce fonctionnaire une sorte de dégoût sévère pour les histoires de recel. Il ne se disait pas que, dans un commissariat, l'injure, l'attentat aux mœurs, le vol, le recel, c'est simplement le train-train ordinaire des affaires de la maison, et que vraiment, tous les employés de l'action publique, chargés de poursuivre les délinquants, ne peuvent plus s'indigner et se révolter à chaque nouveau méfait des mauvais sujets de leur quartier. Le commissaire demanda à Nicolas depuis combien de temps il était au service de Van Stoel, quelles étaient les personnes qui apportaient des marchandises au magasin, et s'il avait connaissance d'un atelier spécial où l'on repeignait des bicyclettes. Nicolas répondit évasivement pour ne pas compromettre son patron. Mais le commissaire lui fit entendre que c'était peine inutile et qu'on était au courant de tout. Puis on fit entrer Van Stoel, qui se trouvait dans une pièce à côté. Et Nicolas vit un pauvre Van Stoel tout changé. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vu les traits véritables de son patron. Maintenant que cette vieille figure ne riait plus, elle lui paraissait beaucoup plus décharnée. On distinguait un front saillant et des orbites très creusées. Et Nicolas eut une grande pitié pour ce monsieur Van Stoel, qui, à 60 ans passés, se trouvait arrêté et déshonoré pour des opérations illicites qu'il avait pratiquées impunément et quasi innocemment pendant toute sa longue carrière. Le marchand de ferraille s'avança, très agité, du côté de Nicolas, et lui dit d'une voix suppliante « Il faudrait prévenir ma fille. »« Oui, oui !» dit avec élan Nicolas. Le gros commissaire de police n'y mit pas d'opposition, et Nicolas se rendit au domicile particulier de M. Van Stoel. Il n'y était allé qu'une fois, mais il n'y avait vu personne de la famille de M. Van Stoel. Il avait appris un jour, au cours d'une conversation entendue au magasin, que le patron était veuf et qu'il avait une fille très belle. Aussi, en se rendant chez M. Van Stoel, était-il partagé par des sentiments bien différents, le douloureux embarras d'avoir à annoncer une aussi fâcheuse nouvelle, et l'espoir romanesque de tout ce qui pourrait arriver. En entrant dans le petit appartement de M. Van Stoel, à un quatrième étage du boulevard Voltaire, Nicolas eut le soulagement de voir la belle jeune fille déjà en larmes. Il apprit par la suite que M. Van Stoel, aussitôt arrêté, avait griffonné un mot qu'il avait fait porter par son homme de peine. Il resta donc, sans mot dire, pendant quelques instants, debout dans une petite salle à manger sombre. Clara Van Stoel était assise près de la fenêtre et pleurait silencieusement. La sœur de M. Van Stoel pleurait dans la cuisine. Il se décida à s'approcher de la jeune fille et lui dit à demi-voix « J'ai vu votre papa. » Elle le regarda, il pensa « C'est vrai qu'elle ne me connaît pas. »« Je suis le commis. J'ai vu votre papa là-bas. » Puis il ne sut que dire. Il regarda Mademoiselle Van Stoel. Était-elle belle vraiment? Il fallait attendre pour se prononcer que son visage, gonflé de larmes et rougi par endroits, eût repris ses traits et son teint habituel. C'était une grande fille, mince et brune. Nicolas pensa qu'aussitôt qu'elle serait un peu rassérénée, il n'aurait aucune peine à tomber amoureux d'elle. Que pouvait-il faire maintenant pour la secourir? Se rendre nécessaire? Devenir son chevalier servant? « Je vous en prie, dit-il. Ne vous alarmez pas, on fera des démarches. S'il y a une plainte contre M. Van Stoel, c'est peut-être pour une somme pas très importante. On obtiendra peut-être de faire retirer la plainte. On fera ce qu'il faudra. » Il pensa que le jeune vicomte de Costéran devait avoir de belles relations. Il irait le voir tout de suite. Il fit part de ce projet à Mademoiselle Van Stoel. « J'ai un ami qui connaît des gens très haut placés. J'irai le voir ce soir même, et il s'occupera du patron. »« Oh, je vous remercie, » dit la jeune fille. Elle lui prit la main et la lui serra fortement. Le cœur de Nicolas battit. il était tout à fait amoureux.
« Puisque vous êtes si bon, ajouta-t-elle, je vous demanderai encore un service. »
« Tout ce que vous voudrez, » dit Nicolas transporté.
« Voulez-vous passer à la caserne du château d'eau et prévenir l'adjudant Rastin ? C'est mon fiancé !» ajouta-t-elle avec un peu de confusion.